C'est une joie, un privilège, et j'aime bien regarder comme ça tous les visages. Chaque âme est précieuse devant le Seigneur, et il a payé le prix fort pour chacun d'entre nous, pour chacune de nos âmes, et il y tient. J'espère que vous êtes de parmi ceux qui ont découvert le Seigneur comme étant cet ami fidèle et tendre, et tel que le cantique le décrit. Vous savez, nous vivons des jours difficiles, et si nous passons trop de temps à lire les informations sur le journal ou à écouter les comptes rendus, il y a de quoi nous effrayer, vous savez. Si on en écoute trop, hein, vous en écoutez trop, vous n'avez plus envie de vivre, vous avez, c'est la panique. Vous dites, mais qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va? Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Et qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? Et puis les autres dans la rue, ils savent pas ce qu'ils veulent. Et puis on peut y aller longtemps. Mais je cherchais dans la parole et je priais aussi. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux dire à l'église de Sarcelles, à ces frères-là, et puis après tous ceux qui l'écoutent par la suite. Et finalement, il y a le mot confiance qui est venu. Confiance. Alors j'ai fait ce que peut faire n'importe quelle personne, hein, parce que nous avons chacun les outils nécessaires. Hein, j'ai un téléphone chargé, mais on peut trouver les mots confiance. Et j'ai trouvé un passage où le mot confiance était utilisé très souvent. Et il est dans l'Ancien Testament. Donc, je suis resté là. On le trouve tout le long de la Bible. Mais il y a un passage où il s'agit d'un roi d'Israël, Ézéchias, qui... Finalement, c'est dans ce passage-là qu'on trouve le mot confiance, combien de fois. Et donc, nous allons méditer là-dessus ce matin. Ce n'est pas une question de confiance. Il y en a qui ont trop de confiance en eux-mêmes. Il y en a qui ont été déçus dans leur confiance mal placée. Et puis, donc, ce n'est pas juste une question de confiance, c'est une confiance en qui. Comme il s'agit de croire en qui. Hein, pas juste je crois, je suis croyant, mais en quoi? Ben, je suis croyant. Non, c'est et je suis confiant, mais confiant basé sur quoi? Hein? C'est juste tu t'as été remonté psychiquement et puis ou bien est-ce que vraiment ta confiance est placée sur quelqu'un de sûr? Et donc je vous propose deux rois, hein? C'est deux rois. Et les chapitres 18 et 19, ça va faire très long, mais le pasteur m'a donné le temps, hein. Il m'a dit, ces gens, ils jeûnent à midi, là, donc ils sont pas pressés, et donc on pourrait y aller. Non, on va pas lire tous les deux chapitres, mais je vous encourage cet après-midi, si vous commencez avant votre sieste, vous allez endormir avant la fin. Donc, donnez le temps, le meilleur temps au Seigneur, c'est juste après la sieste, quand vous êtes vifs, on donne le meilleur temps au Seigneur. Et puis, lisez ces deux chapitres. Je vais essayer de faire ressortir certaines choses au fur et à mesure dans ces passages. Mais c'est au verset 5, c'est mon verset clé, hein, c'est mon verset tremplin. Mais c'est la première fois dans ce passage, il nous parle d'Ézéchias. Ézéchias, c'est un roi de Juda. Il y a trois rois dont il est beaucoup dit dans l'Écriture. Il y a David, bien sûr, que vous connaissez bien, le roi David. Il y a le roi Salomon. Et puis après, il y a le roi Ézéchias. Et c'était un bon roi. Et donc, mais regardez pourquoi c'était un bon roi. Et au verset 5, il nous dit, « Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Il met sa confiance dans le Dieu d'Israël, en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous savez, une première chose, c'est que c'était un choix délibéré de passer sa confiance. C'est pas, et si vous attendez que ça vous arrive, ça n'arrivera pas. Mais c'est en ayant rencontré une personne et en ayant fait du chemin avec une personne, eu quelques expériences avec cette personne, et en particulier quand on est passé par des moments difficiles avec une personne, eh bien, c'est là où la confiance s'établit. Hein. Quel ami fidèle et tendre, pourquoi on le dit? Mais parce qu'il était fidèle à des moments particuliers. Premièrement, la confiance, c'est nous qui la plaçons en quelqu'un. C'est un choix que je fais. Et nous avons tous besoin de quelqu'un à qui nous faisons confiance. Ézéchias, qui se trouvait roi d'Israël, très jeune, en fait, c'était une co-régence avec son père. Son père n'était pas encore décédé. Il a commencé à régner avec son père. Il a fini le temps de son père et puis après, il a pris la suite. Et il fait ce choix. Il place sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Pas n'importe lequel. Il n'a pas mis sa confiance en un Dieu. Il n'a pas mis sa confiance en le Dieu. C'est le Dieu d'Israël, celui qui s'était révélé à eux de manière très particulière sur le mont Sinaï et qui leur a parlé. Il a dit, vous avez entendu sa voix. Juste pour vous donner une idée de toutes les fois que le mot confiance apparaît, eh bien, regardez avec moi un peu plus loin dans le chapitre, et vous voyez verset 19, quelle est cette confiance dans laquelle tu t'appuies? C'est pas seulement, je vous fais remarquer, on va le développer plus, mais en fait, c'est pas seulement qu'il a placé sa confiance, mais c'est que le roi païen s'est rendu compte que lui avait placé sa confiance. C'est pas seulement, vers quoi je veux tendre, c'est pas seulement que je place ma confiance, mais c'est quelque chose de secret chez moi, mais c'est que ceux qui m'entourent savent que je fais confiance en l'Éternel. Et c'est important. Et au verset 20, un peu plus loin, il dit, en qui donc as-tu placé ta confiance? Verset 21, vers la fin du verset 22, ceux qui se confient en lui, parlant de l'Égypte, ceux qui se confient. Et ensuite il dit, c'est en l'Éternel que nous nous confions. Je les remettrai dans leur contexte. Le verset 24, il dit, tu mets ta confiance en l'Égypte pour des chars et pour des cavaliers. Verset 30, il dit, qu'Ézéchias ne vous n'emmène point à vous confier en l'Éternel. Et puis il y en a quelques autres aussi, hein, c'est au chapitre 19, il dit que, verset 10, il dit que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point, en disant. Donc, ce qui est clair, c'est que non seulement est-ce que Ézéchias a fait la démarche de placer sa confiance en l'Éternel, mais c'est que, finalement, c'est devenu une accusation. Et le roi ennemi savait qu'il fallait détruire cette confiance en l'Éternel s'il voulait avoir la victoire. Donc, même l'ennemi s'est rendu compte que sa force était dans cette confiance qu'il avait, et qu'il fallait détruire cette confiance, et ce que nous allons voir aussi, c'est comment il va essayer de détruire cette confiance, déstabiliser Ézéchias pour pouvoir le vaincre. Et c'est là le modèle pour nous aussi. Hein, nous sommes faibles, il n'y a pas de doute. Maintenant, mais si je place ma confiance en la bonne personne, eh bien je suis imbattable. Dans le chapitre 18, verset 9 jusqu'à 12, Eh bien, il nous parle de ce roi d'Assyrie qui va attaquer le roi de Juda, mais il attaque le roi qui est à Samarie, et il va assiéger cette ville, donc le royaume du Nord, et il va emporter, et il prendra ses gens et les emportera, et ils disparaîtront. Pour ce qui est de l'histoire humaine, ils sont disparus. Pour ce qui est de Dieu, il sait où ils sont. Mais regardez le verset 12. Pourquoi ? Il dit, parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient pas ni écouté, ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. La différence, c'est le même Dieu. Mais l'un a résisté, et il s'agit du même royaume, l'Assyrie. Dans les deux cas, c'est l'Assyrie qui attaque. Et dans l'un, il a mis sa confiance en l'Éternel, et dans l'autre, il a négligé. Vous savez, c'est entre vos mains le genre de vie chrétienne que vous allez vivre. Si ça va être une vie victorieuse, ou si ça va être une vie de catastrophe. C'est Dieu a tout mis à notre disposition. Mais c'est à nous. Pas dire, moi, je peux le faire, moi. Ça, je suis chrétien depuis longtemps. Écoute, ça ne suffit pas. La première chose que je veux dire, c'est placer cette confiance éternelle, c'est un choix, et que cette confiance soit, elle est bien placée quand elle est passée en l'Éternel. Cette confiance, il la met en l'Éternel, il a pris, fait ce choix, mais c'est pas pour cela qu'il n'a pas eu de problème par la suite. Vous savez, parfois on a cette idée, mais moi j'ai choisi de suivre le Seigneur, donc maintenant dorénavant, plus de soucis, plus de problèmes, tout va bien. Eh bien, détrompez-vous. Ézéchias a fait le choix de placer sa confiance à l'Éternel, mais cette confiance a été éprouvée, et durement éprouvée. Et c'est le récit qu'on trouve à partir du verset 13, hein, chapitre 18, verset 13, où il nous dit que le roi d'Assyrie est venu et a entouré la ville de Jérusalem. La première réaction d'Ézéchias, c'était celle qui nous ressemble beaucoup, parce que même si il a fait le choix précédemment de placer sa confiance à l'Éternel, mais la première fois que l'épreuve est venue, il a essayé de négocier ça tout seul. Et combien de fois nous aussi, hein, il y a une chose qui arrive, on va essayer si on peut se débrouiller tout seul. Et puis si vraiment on n'arrive pas, eh bien on va demander au Seigneur de nous aider. Et vous voyez, à partir du verset 13, eh bien, parce que Ézéchias s'était révolté contre le roi d'Assyrie, verset 14, Ézéchias dit au roi, là il ne parle pas à Dieu, il n'a rien dit, il n'a pas prié, rien du tout, il essaye de négocier tout seul. Hein? Et il dit, Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachish, j'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposes, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Regardez ce que ça a coûté. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Voilà ce que ça lui a coûté. Parce qu'il a voulu faire tout seul. Et combien de fois, et peut-être vous êtes là, vous pouvez dire, vous êtes en train de dire dans mon cœur, je sais, la dernière fois, ça m'a coûté très cher. Et puis finalement, j'étais pas avancé. Parce que regardez la suite, verset 15, il donna tout, et au verset 16, ce fut alors qu'Ézéchias, au roi de Juda, enleva pour livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Verset 17, le roi d'Assyrie envoya Lachish à Jérusalem, de Lachish à Jérusalem, vers le roi Ézéchias. Et puis, ils reviennent, ils attaquent comme si rien n'avait été négocié. Vous savez, vous traitez avec des menteurs, eh bien, ils ne sont pas engagés. Ils peuvent promettre tout ce qu'ils veulent, mais si c'est des menteurs, hein, c'est quand le monde vous promet quelque chose, dites-vous, il n'a pas l'habitude de dire la vérité, je ne le crois pas. Même si ça paraît beau, les menteurs, ils disent, ils promettent des belles choses. Et le monde vous promet des belles choses. Il dit, on va suivre Dieu, tu seras privé de toutes les belles choses, les plaisirs et tout ça, tu pourras... Là-bas, ils sont... Dieu est exigeant. Et surtout quand vous allez dans une église où ils sont déjà bien carrés, alors là, vraiment, on ne s'amuse pas. Laisse le monde. Et vous savez, et le monde, il prend tout, et puis il ne nous laisse rien, et puis on se retrouve dans l'état du début. Et combien de fois, combien d'enfants de Dieu même qui avaient dit « Je fais confiance au Seigneur et je donnais mon cœur » et tout ça, mais ensuite qui ont pris les situations entre leurs propres mains, ont voulu gérer les choses de leur façon, et ça leur a coûté tout ce qu'ils avaient, et ils n'avaient rien de plus. Et là, finalement, il a essayé d'acheter la paix, et tout ce qu'il s'est trouvé, c'est que avec le compte en banque vide, et puis... Et le roi est encore là et qui en demande encore. La jeune fille qui sacrifie sa pureté pour du plaisir, eh bien après elle rencontre que des gens qui ne sont pas satisfaits avec ce qu'elle donne. Ils en voudront toujours plus. On prend un emploi un peu louche, ça permet de gagner un peu plus, mais ils en demandent toujours un peu plus. Et on arrive au moment, comme Lot, on se trouve dans un état où notre âme est en souffrance, parce qu'on a tout donné et on n'a rien de plus. Lot, il a tout sacrifié pour avoir la paix. Mais quand il leur a dit, là, les anges sont venus, là, Dieu va détruire, et on s'est moqué de lui. Voilà ce qu'il a gagné. On essaye de négocier avec la famille, et puis, pour leur plaire, on leur donne des dimanches matins, on leur donne ceci, on leur donne cela, tout ça, et puis finalement, après, on trouve qu'il ne reste plus de dimanche. Oui, on a fait confiance. Mais après, pour avoir la paix, on a payé très cher. Et cette deuxième fois, bien sûr, Ézéchias n'a plus rien. Il ne lui reste que sa confiance en l'Éternel. Et ce que je trouve extraordinaire, il y a les exigences, et on va voir la fin du chapitre 18 tout à l'heure, mais regardez le chapitre 19. Là, le roi d'Assyrie voulait tout. Et il voulait que les gens se rendent à lui. Et que le temple, il va être détruit. Et tout cela. Et regardez comment la réaction correcte d'Ézéchias. Chapitre 19, verset 1, il dit, « Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. » Première chose, là, il se tourne directement à Dieu. Il va dans la maison de l'Éternel, il passe par cette entrée qui a été créée, qui permet d'arriver vers Dieu. Nous, notre chemin qui mène au Père, c'est Jésus-Christ. Et c'est à Jésus-Christ, parce qu'il dit « Nul ne vient au Père que par moi ». C'est un verset extraordinaire pour la prière. Et regardez à la fin du verset, donc le verset 4, il s'adresse au verset 2, il dit, il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe le prophète. Donc lui, il va vers le temple, il s'adresse directement à Dieu, et il envoie ses secrétaires pour aller voir le prophète de Dieu, Ésaïe. Là, je vois une leçon pour nous, c'est que dans ces situations difficiles, oui, il a fait confiance, mais il est dans l'épreuve. Et qu'est-ce qu'il fait? La prière, il s'adresse au Père, et après il ouvre la parole de Dieu et consulte la parole de Dieu. Combien de fois j'ai entendu des gens qui disent « Oh, avec les problèmes que j'ai, tout ça, j'ai plus envie d'ouvrir ma Bible. » Ah non, mais tu es plus que jamais, tu dois ouvrir ta Bible quand tu passes. C'est pas, la Bible, c'est pas uniquement pour les beaux jours. C'est pour les jours d'épreuve aussi. Et là, il se trouve face à une épreuve. Il est complètement démuni. Il va vers, pour consulter l'Éternel, la prière, et il va consulter Ésaïe, la parole de Dieu. Ou que ce soit notre première réaction dans l'épreuve. Et sa confiance est éprouvée. Je fais confiance. J'ai décidé de placer ma confiance à l'Éternel. On verra. Et il l'éprouve. Et vous et moi, nous savons combien de fois, oui, j'ai confiance à l'Éternel, même si ça fait des années que je suis chrétien, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a la panique qui apparaît. Et donc, qu'elle apparaisse, c'est une chose, et que je reste dans la panique, c'est autre chose. Et si je vois la panique apparaître, au lieu de laisser les choses s'emballer dans mon esprit, et puis tout d'un coup, je commence à imaginer des choses extraordinaires et des soucis terribles, je m'arrête, je parle au Seigneur, je lis sa parole, je lis ses promesses, je vois comment il a été fidèle et comment il promet d'être fidèle, de prendre soin de nous. Et la paix se réinstalle. Au chapitre 19, versets 14 et 15, Rabshaké et le roi doivent partir, mais avant de partir, ils envoient une lettre à Ézéchias, ils disent, écoute, on est parti, mais ne t'imagine pas qu'on ne revient pas, hein. Nous on va revenir, on sera là. Et c'est une lettre de menace. Verset 14, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, il l'a lue. Puis il monta à la maison de l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Et la réponse viendra d'Ésaïe, elle vient de la parole de Dieu. J'adresse ma prière et la réponse je la trouve dans la parole de Dieu. Si vous jouissez d'une marche avec le Seigneur, vous pourrez rendre témoignage de comment ça s'est fait déjà comme ça et que ça continue de se faire. Je prie à Dieu et la réponse vient de son prophète. Pour nous, c'est les paroles des prophètes sont dans l'Écriture. Et au verset 20, eh bien, il dit, « Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée, au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. » Et la réponse est venue de la parole de Dieu, du serviteur de Dieu. Et nous avons, dans notre Bible, nous avons le texte des paroles des prophètes. Vous savez, une autre chose que j'ai remarquée, dans ces deux chapitres, je vous ai déjà dit qu'il y a une attaque pour démolir, pour détruire la confiance que Ézéchias avait en Dieu. Mais il y a une autre chose qui se passe, c'est qu'il y a un échange de paroles. la guerre des mots. Le parler, c'est une capacité qui est unique pour l'être humain. Hein, il n'y a que les êtres humains qui arrivent, qui ont cette possibilité de communiquer, de parler, et de réfléchir et transmettre leurs pensées et de recevoir la pensée de Dieu et tout cela. Il n'y a que nous qui avons ça. Et le diable le sait. Et c'est là où il attaque. Et dans notre monde, regardez comment le progrès a été dans le sens de la communication. Même si on communique moins qu'avant, mais c'est dans le sens de la communication. Multiplier les paroles de toutes sortes de choses. Tout le monde a le droit de parler, sauf Dieu. Vous pouvez vous intéresser, vous pouvez dire, moi, je m'intéresse aux soucoupes volantes. Vous pouvez dire, moi, je suis du parti de la Terre plate. Vous pouvez dire n'importe quoi, on vous laisse dire. Vous parlez de Dieu. Je parlais avec Joseph, là, hier soir, les gens, on leur dit, et Dieu, oh, juste à peine s'ils entendent le mot, ça ne m'intéresse pas. Pas savoir. Ils ne veulent rien savoir. Mais c'est une guerre de paroles. Et vous envoyez vos enfants à l'école, le monde se sert de ces porte-paroles dans la classe pendant des heures en train d'essayer de les marquer avec des paroles. Semer le doute, détruire ce qu'ils ont reçu, remplacer par d'autres pensées, d'autres valeurs. Tout ce que Dieu a institué, ils sont en train de le détruire. Au point que on commence à croire que c'est normal, la manière dont beaucoup de choses se passent, et tellement les chrétiens même sont influencés par ces idées que parfois ils croient que c'est normal, que ça peut se retrouver dans l'Église. Moi je dis constamment, ce qui est permis dans le monde, c'est chez eux. Mais ce qui est dans l'Église, c'est la parole de Dieu. Et pour ce qui est des enfants de Dieu, eh bien, c'est la parole de Dieu. Même si c'est en contradiction avec le monde. Le monde dit, mais tu peux faire, c'est pas mal. Peut-être. Mais quand je appartiens au Seigneur Jésus-Christ, c'est d'autres règles. Ce qui est permis chez eux n'est pas permis chez nous. Parce que, non pas parce qu'on n'est pas libre, parce que vous me demandez, vous dites, mais le monde, est-ce qu'il est heureux? Il n'est pas heureux. Avec tout ce qui se permet, et tout ce qu'il légalise, et tout ce qu'il fait passer des lois même pour que les gens soient convaincus qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Mais ils ne sont pas plus heureux. En fait, ils sont de moins en moins heureux. Mais lorsque nous suivons les commandements du Seigneur, moi, ça fait quelques années, hein. Je suis pas vieux, hein. Attention, ne dites pas des bêtises. Mais je suis pas malheureux. Je suis heureux. Et plus je marche avec le Seigneur, plus je suis heureux, plus je me sens épanoui. Il y a ce monde qui est là en train de des paroles. C'est les paroles. Et là, ici, on trouve, il y a d'autres exemples dans la Bible où c'était des mots. Vous connaissez David et Goliath. David et Goliath, la grande bataille, et pendant 40 jours, c'était que des mots. Ils n'ont pas croisé le fer pendant ces 40 jours. C'était chaque fois, c'est Goliath qui sort et puis qui parle. Et les autres qui tremblent. Et le roi avec. Et finalement, ils ont été réduits à l'incapacité, alors qu'ils étaient l'armée du peuple de Dieu, ils étaient réduits à l'incapacité. Pourquoi? Parce que leur seule information venait de Goliath. Il n'entendait et ne pensait qu'à ce qu'il avait dit. Et vous savez, en tant que chrétien, ça peut nous arriver aussi, hein. Si on ne fait que lire ce que eux enseignent, et ce que eux disent, et ce que eux pensent, et les philosophes, ils sont intelligents, mais ils disent pas toujours des bonnes choses. Les scientifiques, maintenant, de jour, même on ne croit plus aux scientifiques. Ils nous ont dit, les scientifiques, la Covid, ceci, les scientifiques, ils ont dit ceci, ceci. Il y a tellement de contradictions, on se dit, mais où sont ces scientifiques? Et puis les pensées contraires, eux aussi, ils ont des scientifiques et des médecins, et puis tout le monde cite des médecins qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas les noms. Dans le sud, il y a un certain professeur à Marseille qu'on connaît bien. Alors celui-là, il a du poids dans le sud. Mais bon, ça c'est autre chose, je ne vais pas dire le nom. Mais vous savez, c'est une question de mots. Et vous entendez ça constamment, vous ouvrez les informations, un tel a dit, l'autre a dit, et l'autre il dit, et tout ci. Et puis, il y a de quoi démolir la foi de n'importe quel enfant de Dieu, si c'est tout ce qu'il écoute. Et c'est ce que Goliath avait réussi à faire pendant 40 jours. Heureusement qu'il y avait venu quelqu'un qui n'avait pas écouté à Goliath pendant 40 jours. Un petit jeune, mais qui lui avait été resté avec son berger, qui est l'Éternel. Et il avait écouté d'autres paroles. Et puis, il n'a pas voulu écouter longtemps. Goliath n'a pas fini sa phrase, qu'il a dit, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Vous le laissez parler, mais taisez-le. Non, mais toi, t'es petit, là, alors, qu'est-ce que tu fais? Sois un peu intelligente, qu'est-ce que tu fais? Et puis, le grand frère lui a dit, mais qu'est-ce que tu... Tes brebis, là, ils sont avec qui? Va, retourne là-bas. C'est le genre de langage qu'on reçoit aussi, à nous. Mais David, il a dit, moi... Je n'écoute pas cet homme-là, et puis surtout, on va le taire. Et puis, tout d'un coup, les choses ont changé. Hein. Et vous savez, vous voulez la victoire dans votre vie? Goliath, il parle toujours. Le Goliath qui est là-dehors, les médias, ça s'appelle aujourd'hui. Il ne s'appelle pas Goliath, il s'appelle les médias. Et les réseaux sociaux. Et puis, ça parle, et tout le monde a le droit de parler. Et vous allez être neutralisé comme l'armée de Saül. Il y a un autre exemple dans la Bible, c'est Néhémie. Néhémie aussi qu'il avait un projet qu'il voulait réaliser. Il était venu pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Il avait demandé conseil à personne. Il savait, Dieu l'avait envoyé. Il voulait travailler. Mais vous savez, tout le long de son travail, vous relisez le livre, vous trouvez qu'il y a Sambalat qui est constamment en train de lui dire, en train de mentir sur lui, en train d'essayer de l'arrêter. Viens, on va discuter. La moquerie, ils ont essayé tous les moyens pour l'arrêter. Mais il n'a pas écouté. Plutôt, il a prié à Dieu et dit, Dieu, tiens-moi. Hein? Et vous savez, c'est la seule manière qui nous reste de rester fidèles dans ce monde. Nous pouvons être des petits David. Le monde nous méprise. Mais si on était pas grand-chose, pourquoi est-ce qu'on les dérange tant? Vous savez, le petit caillou dans la chaussure, il peut vous déranger, hein. Et nous sommes peut-être dans ce monde de petits cailloux dans leurs chaussures. Mais le caillou, il y reste. Et on sait qu'il est là. Vous savez, et là, Ézéchias va se trouver dans une situation où c'est des paroles et puis on veut détruire sa confiance. Et vous savez, qu'est-ce qui vous détruit votre confiance à quelqu'un? Le plus souvent, c'est quelqu'un qui vient vous dire, tu sais un tel, hein? Tu sais ce qu'il a dit à quelqu'un par rapport à toi? Et tout d'un coup, à dire, ah ben celui-là, j'ai plus confiance en lui. Comme ça, vous avez détruit la confiance, et avec tes paroles. Et avant même de se poser la question, est-ce que c'était vrai, ou est-ce que celui qui est en train de me parler, je peux lui faire confiance? C'est pas parce qu'il chuchote dans l'oreille que je peux le croire. Hein. Le diable, il chuchote énormément. Hein. Et Ézéchias a fait le choix de faire confiance à l'Éternel. Et Satan, plus que nous, il sait combien l'Éternel est puissant. Et combien celui qui a fait confiance en l'Éternel est résistant. Il le sait plus que nous. Et donc il dit le seul moyen c'est d'attaquer. et puis c'est l'idée de l'avoir par l'usure. On continue constamment. Et peut-être que vous dites, oui, mais j'ai justement, c'est ça que je vis. J'ai quelque chose là qui est constamment en train d'essayer de semer le doute dans mon cœur. Parce que le doute, hein, c'est le contraire de la confiance. Et le doute, il vient par des paroles. Tout comme la confiance vient des paroles de Dieu. Donc choisissez votre source et ça fera toute la différence dans votre vie. Je reviens au chapitre 18, donc à partir du verset 19, c'est là où on est en train de des attaques de l'ennemi, c'est une guerre psychologique. Il n'y a pas d'armes, il n'y a rien qui se passe, c'est que des paroles, des échanges. Et ça, c'est même plus grave parfois. Si on me donnait des coups de poing chaque fois que je prononçais le nom de Jésus, ça m'encouragerait. Mais si il attaque avec des paroles, ça risque de m'affaiblir avec l'usure. L'ennemi n'est pas bête. Je sais que le diable est rusé et qu'il est très intelligent. Il était le plus élevé des anges. Il a toujours ces capacités-là. C'est seulement qu'ils sont mal orientés. Et il veut détruire l'œuvre de Dieu. Donc, j'arrive au chapitre, verset 19. Et j'ai lu ce verset déjà. Dites à Ézéchias, ainsi parle le roi d'Assyrie. Il est fier de paraître aussi grand. Le grand roi. D'accord, mais c'est, oui. Et la question, c'est, il en met plein les yeux. Hein, il te met, et, vous savez, même le petit doigt là, il peut vous empêcher de voir le soleil, qui est pourtant est beaucoup plus grand. Et lui, il se met comme ça devant les yeux, et il bloque la vue, et dit le grand roi, dit quelle est cette confiance dans laquelle tu t'appuies? Il dit je vais te citer quelque chose que tu as dit. Et le diable, il entend tout ce qu'on dit, hein. Et il lui rappelle une parole qu'il a dite. Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Il n'a pas dit Dieu ou quelque chose comme ça. Il ne va pas lui rappeler les promesses de Dieu ou quelque chose. Non, non. Il a dit, tu as dit, et puis il va prendre quelque chose qui est strictement intellectuel. Tu as dit que pour la guerre, il faut de la prudence et de la force. Et si on lit le début du chapitre, on a vu que Ézéchias, il avait commencé sa vie, il avait commencé à combattre des royaumes autour, il avait eu des victoires, et il avait été même jusqu'aux Philistins, il avait réussi à les soumettre, et il avait eu que des victoires. Et ce roi vient, il va dire, ah, jusque-là, tu as eu du succès. Et ton petit principe, là, de prudence et de force. Il dit ton petit principe là. Et alors, c'est avec ça que tu vas nous résister. Et vous savez, des fois, on a nous on est chrétiens, donc on n'a pas des petites phrases du monde, on a des petits versets de la parole. Des petits versets qu'on colle sur le mur, des petits versets qu'on met partout. C'est des petites phrases comme ça qu'on met. Et il dit, passe ta confiance à l'Éternel et tout s'arrangera. Vous allez sur Internet, tous les trucs chrétiens, là, les petits sites chrétiens, ils ont plein de petites phrases. Ils sont même pas bibliques, mais c'est des petites phrases qui plaisent. Et puis, ah ben je sens mieux, ça m'encourage, c'est une belle parole. Elle n'est même pas vraie. Mais ça te plaît, donc tu es encouragé. C'est psychique uniquement, mais c'est pas spirituel. Et le diable, il vient et dit, oui, t'as ta petite phrase là, tu sais, hein. Pense positivement et ça ira. Et il y a toutes sortes de petites choses comme ça. Et il dit, ta petite phrase là, tu crois que c'est ça qui va te permettre? Et il dit, c'est trompeur. Et ce qui t'a réussi jusque-là, ça va marcher. C'est ça la confiance en l'Éternel. Après, bien sûr, il va dire, et en qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé. Vous savez, il ne dit pas, tu as placé ta confiance en l'Éternel. Il va jamais vous rappeler celui en qui vous avez placé votre confiance à un certain moment. Il a dit, tu as placé. Vous savez, le diable, une des techniques, c'est d'implanter des choses fausses dans notre pensée. Et ça marche. Regardez les fausses news, les fake news et tout ça. Et ça marche. Le pauvre président de France, il ne sait plus quoi faire avec tout ça. Mais le diable, il s'en sert. Il s'en sert pour les chrétiens aussi, le fake news. Et des fausses promesses, et on s'appuie sur des fausses paroles. Et là, il dit, tu sais, t'as mis ta confiance dans le roi d'Égypte. Ben oui, Ézéchias, au début, il avait une alliance avec l'Égypte. Et c'était un allié de poids. Le seul truc, c'est que quand Rabshakeh lui est en train de parler, là, Rabshakeh, il avait déjà vaincu l'Égypte. Il lui dit, tu as placé ta confiance en l'Égypte. Tu sais où ils sont? Ils sont dans ma poche. Hein. Il est en train de le travailler, de dire, mais écoute, tu n'as rien. Tu n'as rien sur lequel t'appuyer. Il dit, ce roseau cassé, vous savez que j'ai grandi en Afrique du Nord, les roseaux, on les connaît. Et un roseau cassé, il paraît droit. Il ressemble aux autres. Jusqu'au moment où on s'appuie dessus. Et quand on s'appuie dessus, crac. Et puis en général, il y a une écharde qui part dans la main. Et ça fait mal. Je l'ai fait. Il dit, l'Égypte, ce roseau cassé. Mais vous savez, peut-être que vous avez eu des roseaux cassés dans votre vie aussi. Des personnes sur qui vous avez fait placer votre confiance. Quelqu'un qui vous a promis, vous avez compté sur cette promesse, et puis à la fin, ça vous a fait du tort. C'était peut-être un parent, c'était peut-être celui qui devait vous protéger, c'est lui qui vous a fait du tort. Il dit, c'est un roseau cassé pour ceux qui se confient en lui. Ensuite, il continue au verset 22. Il dit, vous faites confiance à Ézéchias. Mais Ézéchias, il a tué tous vos dieux. Il a détruit toutes vos lieux. Il a détruit tous les autels. Il a même détruit le serpent d'airain que Moïse a fait. Il a détruit ça aussi. Vous lisez ça au début du chapitre. Il a dit, il a détruit tous les dieux qui pourraient vous aider. Il les a éliminés. Alors, tu vas faire confiance à... Comment vous allez faire confiance à cette situation? Vous êtes complètement démunis, même de ce qui est à vous. Ensuite, il lui dit, et ta force, il dit, écoute, ramène-moi 2000 hommes, et moi je te ramène 2000 chevaux, si tu trouves 2000 hommes pour monter ces chevaux. Bon, heureusement, et pour Israël, et c'était une chose que Dieu avait dit, il a dit, il faut pas mettre la confiance dans les chevaux. La confiance en l'Éternel, jamais dans les chevaux. Et donc, finalement, il n'y avait pas de chevaux. David n'avait pas eu de chevaux. Mais Salomon, lui, il a développé ça. Parce qu'il a marié une femme égyptienne, et puis il a commencé à être un client numéro un de l'Égypte par rapport à ses chevaux et tout ça. Puis, bon, heureusement pour lui qu'il n'a jamais fait la guerre. Mais Dieu n'est pas là avec les chevaux. Et là, il dit, mais ils n'avaient pas de cavaliers, ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas des hommes de guerre qui savent monter des chevaux. Et l'autre, il se moque d'eux, il dit, trouve-moi 2000, rien que 2000, et je te donne les chevaux. Et il se moque de sa force. Il dit, tiens, il n'y a même pas 2000 hommes qui sont capables de se battre contre nous, nos cavaliers. Donc, par la suite, quand vous lisez la fin du chapitre 19, vous voyez que combien il avait dans son armée. Hein, parce que, il nous dit dans le chapitre 19, verset 35, il nous dit que l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Donc les 2000, hein, il n'a pas proposé grand-chose, il n'a pas pris de risque, lui. Mais il se moquait de Ézéchias. Il dit, tu n'as même pas de quoi monter les chevaux, tu ne sais même pas monter un cheval, tu ne sais rien faire, et tu veux résister. En qui est-ce que tu places ta confiance? Bien sûr, c'est toujours, il parle toujours des moyens humains. Et c'est, notre confiance ne doit pas être dans les moyens humains, quels qu'ils soient. Regardez verset 25. Il dit, d'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre le pays et détruis-le. Il dit, toi, tu fais confiance en l'Éternel, mais il n'est même pas bon avec toi. C'est lui qui a dit à ton ennemi de venir te détruire. Tu te rends compte? Regardez ça. Mais vous savez, les chrétiens, ce qui arrive souvent, c'est que il y a quelque chose qui ressemble un peu, et puis on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Hein, parce que les choses ne s'arrangent pas comme vous voulez. J'ai prié, ça ne s'est pas marché, finalement ça a été autrement. Et puis, si vous avez de l'expérience dans la marche chrétienne, vous vous rendez compte que plus tard, vous dites, ah merci Seigneur que tu n'as pas répondu comme j'ai demandé. Mais sur le point, vous demandez, il n'y a pas, ça ne marche pas, ça s'empire, et vous dites, Seigneur, tu es où? Et alors le diable, il vient, il dit, oh, tu vois, ton Dieu, hein, quel ami fidèle et tendre. C'est beau quand tout va bien, hein, mais quand tu es dans le besoin, il n'est pas là. Hein. Et là, encore, il vient, et c'est avec, il ose dire, c'est Dieu qui m'a envoyé. Oui, Nebuchadnezzar, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais pas celui-là. C'est du mensonge. Mais si vous avez l'impression que c'est Dieu qui est contre vous, alors c'est sûr que ça vous détruit psychiquement. Verset 27, on dit au Rabshaké, on lui dit, écoute, parle pas en hébreu, parle pas dans la langue du peuple, parle-nous en araméen, nous on comprend. Pour que le peuple n'entende pas ce qui se dit, et pour qu'eux ne soient pas démoralisés. Et Rabshaké dit, mais moi je suis pas venu pour te parler à toi, hein, c'est à ce peuple-là, ce peuple qui va... S'il résiste, s'il continue à t'écouter, à faire confiance à qui tu fais confiance, eh bien, c'est la misère pour eux. Ça a pris 3 ans de siège pour détruire Samarie. Eh bien, nous, on est prêts de prendre le temps qu'il faut pour détruire. Et vous savez, je vous dis un secret qui n'est pas un secret. C'est que le diable, il a du temps de son côté. Il va prendre le temps qu'il faut pour vous démolir. Et il va attaquer. Il s'attaque au fondement, il s'attaque à la fondation de votre foi pour vous détruire, parce qu'il sait après que le château peut tomber. Et lui, il prend son temps. Il commence avec vos enfants que vous aimez tant et que vous avez investi, que vous leur apprenez des choses. Et puis le diable, il va commencer. Il a 12 ans dans le premier cycle d'école. Pour démolir. Il prend son temps. Et quand il arrive, il a terminé le premier cycle, il y a déjà 17 ans, presque 18 ans, c'est un adulte, et on lui dit, maintenant tu peux décider pour toi-même, hein, tu fais ce que tu veux. Et le monde prend son temps. Et là, il parle à ce peuple, il dit, j'ai de quoi, écoutez. Il dit au peuple, écoutez, je vais vous montrer la bonté que j'ai. Encore, il ne faut pas croire. Le menteur qui a déjà menti, vous savez que c'est un menteur. ne le croyez pas la deuxième fois. Mais il va dire, écoutez, vous n'écoutez pas ces Ézéchias, vous venez, vous vous rendez à moi, je vais vous prendre, je vais vous emmener dans un pays meilleur que ce que vous avez là, et vous aurez des oliviers, vous aurez des figuiers, vous aurez des vignes, vous aurez... C'était une manière de dire que vous aurez l'abondance et la joie et tout le plaisir. Juste, ne faites plus confiance à qui vous faites confiance et suivez-moi, je m'occuperai de vous. C'est des belles promesses de menteurs. Et il est en train de miner la confiance du peuple dans leur roi, dans leur Dieu. Et ensuite, on arrive au verset 33. Alors là il dépasse la limite. Et c'est là où Rabshaké se tire dans le pied, comme on dit. Il dit au verset, j'ai dit verset 33, je vais commencer au verset 32, le début de la phrase, ça monte un peu plus haut, 31. N'écoutez point Ézéchias, car il parle, ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-moi, et chacun de vous mangera sa vigne, son figuier, et chacun boira l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé, de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'olivier à l'huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous réduire, disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamad, de Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Héna, d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de sa main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Israël de ma main? Et là, tout d'un coup, il a fait un tort. Hein, il a été trop loin. Il a réduit l'Éternel au niveau des autres dieux. Et vous savez, c'est ce que David a souligné quand il a attaqué Goliath, et avant de lâcher sa pierre, il a dit parce que tu as parlé contre le Dieu vivant, tu t'es cru plus fort que lui, tu t'es trompé. Les autres dieux. Et vous savez, et je suis sûr que la pensée est passée, il dit, mais je fais confiance, vous avez de la famille qui vous ont dit, mais tu vas à l'église, et tu pries, et puis tu donnes ton argent, l'argent pour lequel tu as travaillé, et puis finalement tu ne gagnes pas grand-chose, tu as tout ce que tu as, c'est un petit SMIC, et puis en plus, à l'église, on te demande de donner de l'argent. L'argent, c'est toi, c'est ta sueur. Et on te demande de le donner, de sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Et tout cela, et qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as? Regarde les problèmes que tu as, et regarde, et ton loyer, tu n'arrives pas à le payer, et puis maintenant tu vas voir l'assistance sociale pour qu'elle t'aide et tout ça, regarde ce que t'as apporté. Et puis ils essayent de miner notre confiance en Dieu. Et il dit, tu sais, il y a d'autres religions aussi, hein, puis c'est pas mieux. Finalement, les religions, ça te gâche la vie. Vis, et puis mangeons, buvons, et demain nous mourrons. Et c'est tout ce qu'ils ont à nous proposer, et puis ils croient que c'est beau. Vous savez, le monde parle, et il essaie de miner notre confiance. Maintenant, je reviens à ce que j'ai dit tout au début. Ézéchias, quand il a entendu les menaces, il a entendu les paroles et tout ce qui avait été dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans le temple de Dieu. Il s'est adressé directement à Dieu. Et puis ensuite, il s'est adressé à la parole de Dieu pour recevoir le message. Et vous savez, ce qu'on a vu ce matin, c'est des choses qui arrivent constamment à tout enfant de Dieu. Et dès que vous passez votre confiance à l'Éternel, eh bien, viendra l'ennemi pour essayer de détruire cette confiance. Et il le fera avec des paroles. Et les paroles, c'est plus dur. Mais vous savez, il y a une parole qui est plus puissante que les paroles. Il y a la parole de Dieu. Et sachons, à tout moment, revenir à notre Dieu, lui adresser la prière, et puis il nous répond par une parole dans l'Écriture, celle qu'il a réservée pour nous. Et c'est ça qui nous permettra de continuer. Le roi d'Assyrie, lui, était mort, il a même été tué par ses propres fils. Tandis que Ézéchias, il a continué à servir l'Éternel. Ça, la différence. Plaçons notre confiance en l'Éternel. Si vous ne le connaissez pas ce matin, eh bien, c'est à lui qu'il faut s'adresser. C'est lui, la prière à Dieu, la lecture de sa parole, et lui fera le reste. Jésus-Christ est mort pour que ce soit possible. Jésus-Christ a sacrifié sa vie pour que cela soit possible. Et si nous sommes enfants de Dieu, il dit, mais j'ai placé ma confiance en l'Éternel. Mais oui, mais il faut l'entretenir parce qu'elle est menacée constamment. Prions. Père Céleste, nous sommes faibles, tu es fort. Nous voulons que notre confiance en toi soit affermie. Nous avons besoin de placer notre confiance en toi. Le monde nous attaque constamment. Et même il nous attaque de l'intérieur, avec des gens qui s'appellent évangéliques, avec des gens qui se disent que nous aussi on aime Dieu. Seigneur, nous voulons recevoir les paroles que nous trouvons dans celles que tu as révélées. Nous voulons entretenir cette relation avec toi, venir au Père par Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Père, merci pour ces paroles d'encouragement et que tu puisses nous encourager, nous relever et que nous puissions marcher fidèlement devant toi et honorer ton nom. Et que le monde sache que nous avons placé notre confiance en toi et que certains soient attirés à toi par ce qu'ils voient dans nos vies. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.